l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.
Bonjour à tous. Cette semaine, la loi pouvoir d'achat a été approuvée par les parlementaires. Et pour nous en parler, nous sommes en compagnie du sénateur audois Sébastien Pla. Bonjour, monsieur le sénateur.
Bonjour.
Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit ? Qu'est-ce que cette loi pouvoir d'achat ?
Alors en fait, durant la dernière quinzaine, nous avons examiné deux lois qui sont liées l'une à l'autre. Donc la loi pouvoir d'achat et la loi sur le projet de loi des finances rectificatives du budget de l'État. Les deux sont liés puisque dans un contexte en fait économique compliqué avec une inflation de plus en plus importante, le coût de l'énergie qui explose et le fait que la population française est en perte forte de pouvoir d'achat, il fallait très rapidement réagir pour proposer des dispositifs qui permettent aux plus impactés, aux plus précaires d'entre nous de ne pas être trop impactés par cette inflation qui est du jamais vu depuis une trentaine d'années et qui nous arrive en plein contexte de crise géopolitique mondiale, de crise climatique, de crise sanitaire avec le Covid, et qui fait que la situation de nos plus précaires est relativement inquiétante.
Et c'est après 60 heures de débat, plus ou moins houleux, que la loi pouvoir d'achat a été approuvée avec les apports proposés par le Sénat. Et personnellement, monsieur le sénateur, vous avez défendu près de 30 amendements.
Oui, parce que sur les deux sujets, ce sont des sujets qui me touchent beaucoup, qui concernent la population, en particulier du département de l'Aude, fortement, dont les niveaux de revenus sont pas très élevés. Donc j'ai souhaité apporter un certain nombre d'amendements à ces textes pour aller plus loin dans les dispositifs d'aide autour de la prime d'activité, autour de l'aide à l'allocation de rentrée scolaire, au soutien aux entreprises aussi de manière à défiscaliser une partie des heures supplémentaires, aussi des dispositifs de prise en charge d'un certain nombre de dépenses, notamment des dépenses de transport par les entreprises qui sont elles aussi défiscalisées pour pouvoir justement faire baisser les coûts à la population, aux salariés, en particulier aux salariés les plus précaires, aider les entreprises pour qu'elles puissent accompagner justement l'ensemble des salariés, puisque lorsque vous avez une inflation et une augmentation des prix à 5,5% voire 7%, nous allons d'ici la fin de l'année, l'intérêt c'est que les salaires et les revenus puissent augmenter à minima de l'inflation. Alors j'ai proposé deux dispositifs en particulier qui n'ont malheureusement pas été retenus dans leur intégralité, je le déplore, qui étaient de manière exceptionnelle cette année, d'ajuster le point de la fonction publique territoriale sur l'inflation et d'ajuster aussi l'augmentation des retraites sur l'inflation à l'euro près, les compenser à l'euro près, c'est-à-dire si l'inflation est de 5,5%, et bien augmenter le taux, le point d'indice à 5,5%. Ça n'a pas été accepté. On aura une augmentation à 3,5% du point d'indice de la fonction publique qui n'avait pas été augmenté depuis 5 ans, ce qui était nécessaire effectivement pour eux, mais qui ne compense pas l'inflation. Et il en va de même pour les retraites, où la plupart des retraites, la dynamique est très réduite et l'augmentation sera très faible par rapport à l'inflation. Donc je suis à moitié satisfait par la décision. Donc la plupart des dispositifs que nous souhaitions mettre en œuvre pour aller plus loin dans l'aide aux personnes vulnérables nous ont été refusés pour des raisons purement dogmatiques, puisque quand vous voulez redistribuer de l'argent, évidemment, il faut en trouver. Et aujourd'hui, tous ces dispositifs, toutes ces aides sont des aides exceptionnelles, donc c'est pas financé. Donc pour les financer, nous sommes battus sur les deux textes, et c'est pour ça que ça a donné lieu à des débats houleux au Parlement, puisque moi je souhaitais, à l'instar de mon groupe politique, mais de toutes les familles politiques du centre au Parti communiste en passant par les socialistes, souhaitais taxer les super profits, souhaiter faire participer les entreprises qui ont bénéficié le plus de la crise économique, de la crise énergétique, de la crise sanitaire. Aujourd'hui, il est complètement anormal que les grands groupes pétroliers, que les GAFAM comme Amazon, qui ont explosé leurs revenus et leurs bénéfices, hein, qui se comptent à milliards d'euros, ne participent pas à l'effort national. Ça, c'est complètement anormal. C'est pas que moi qui le dis, le directeur de l'ONU a clairement dit dans la presse il y a 4 ou 5 jours qu'il fallait que les pays et les gouvernements taxent les entreprises qui bénéficient de la crise, notamment la crise écologique, la crise énergétique, de manière à financer la solidarité, à financer les plus précaires. Même en Angleterre, même en Italie, les gouvernements ont décidé de taxer les super-profits. En France, ce n'est pas possible. Le ministre Bruno Le Maire a insisté sur un point qui ne me paraît pas complètement décalé. Il nous a dit, en France, on est le pays des impôts et des taxes, on ne va pas créer une taxe supplémentaire. Alors, ce n'est pas une taxe, c'est une participation aux bénéfices, aux super-bénéfices de ces entreprises qui nous a été refusée. Et pourtant, les recettes se comptent en milliards d'euros et auraient permis d'aller plus loin dans le soutien et l'aide aux plus précaires. Nous avons voté beaucoup de dispositifs qui vont dans le sens, notamment le chèque énergie, la baisse du prix du tarif de l'essence à la pompe, très bien, mais on pouvait aller beaucoup plus loin si on était allé chercher l'argent là où il est. Or, ce qui s'est passé, c'est que le financement de ces dispositifs-là se fait au détriment des plus précaires. Donc moi, j'ai l'impression que Bercy et le ministre, en tout cas Bruno Le Maire, avec la majorité de droite au Sénat, a inventé un nouveau concept qui est, pour aider les pauvres, eh bien, on prend de l'argent aux pauvres. Voilà ce qui se passe. Alors que je demandais l'augmentation de rentrée scolaire, on va baisser l'augmentation de la rentrée scolaire pour financer en face la prime d'activité pour les travailleurs les plus précaires, les bénéficiaires de minima sociaux. Mais c'est les mêmes. C'est les mêmes. Quelqu'un qui a un bas salaire, qui est au SMIC ou qui bénéficie des minima sociaux, qui va toucher 100 ou 150 euros de prime de rentrée, ce qui est très bien, on va lui enlever 50, 60 ou 80 euros d'allocation de rentrée scolaire. Au final, il ne va pas gagner grand-chose. Voilà, donc je suis assez en colère sur le fait que nous aurions pu aller plus loin dans les dispositifs d'aide au pouvoir d'achat pour les personnes les plus précaires, dans le soutien des entreprises pour qu'elles puissent augmenter sans impacter leurs résultats, les salaires, en allant chercher l'argent là où il est. Au contraire de ça, le gouvernement a refusé, avec la droite sénatoriale, d'aller taxer les plus riches.
Alors, autre sujet qui a animé les débats, la redevance télé. Vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Oui, la redevance télé qui était dans le projet de loi des finances rectificatif, en fait, qui nous tombe comme ça, là, du jour au lendemain, sans aucune préparation. On nous dit, il y a trop d'impôts en France, on les supprime. Bon, on supprime la redevance, on supprime un impôt. Sur le principe, pourquoi pas ? Sauf que, à la mesure où cette affaire est pas prévue, on ne sait pas ce que va devenir demain le service public de l'audiovisuel. À un moment où la plupart des grandes fortunes, Bolloré notamment, sont propriétaires de la plupart des médias nationaux, veulent en plus de ça racheter les maisons d'édition, que va devenir la pluralité de la presse dans les années à venir? Il y a un danger de la destruction du service public de l'information dans ce pays qui a tendance à ressembler de plus en plus aux États-Unis où tous les organismes de presse dépendent du secteur privé. Donc, le danger est là. L'inquiétude est qu'en supprimant la redevance, c'est l'État chaque année par décret qui décidera d'affecter une part de la TVA pour financer, c'est très technique, hein, pour financer l'audiovisuel public. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la TVA, qui est un impôt juste que tout le monde paye, quel que soit ses moyens, va financer un service public de ce niveau-là. Donc on n'est pas d'accord. Non pas sur la suppression de la taxe de la redevance de manière brute, on n'est pas d'accord sur le principe d'affaiblir le service public de l'audiovisuel et on alerte sur l'avenir de la presse indépendante et de la presse publique.
Merci Sébastien Pla, je rappelle que vous êtes sénateur audois. Merci pour toutes ces précisions sur la loi du pouvoir d'achat.
Merci à vous.
C'était l'invité de la rédaction de Grand Sud FM.